Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, tous les jours de 15h à 16h. Alors cet après-midi, nous vous proposons d'écouter nos meilleurs moments, ceux que nous avons sélectionnés pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au syndrome du côlon irritable, une maladie très handicapante mais pour laquelle il existe des solutions. On vous détaillera tout ça bien évidemment, mais pour démarrer cette émission, place à un sujet qui va vous intéresser, j'en suis sûre, que vous soyez en vacances ou pas, comment lutter contre la fatigue. On vous donnera de nombreux conseils pour y arriver, des conseils simples à mettre en place dans votre quotidien. Évidemment, de nombreuses astuces, vous verrez, tournent autour du renforcement du sommeil. Et c'est possible. Pour en parler et pour nous guider, nous avons reçu le professeur Pierre Philippe, chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Alors, vous avez voulu commencer cet entretien en insistant sur une notion simple mais inconnue du public. 7 x 7, 49. Alors en fait, on parle de 49 heures de sommeil par semaine. C'est la notion la plus importante à retenir de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, je crois.
Alors voilà, on a écrit beaucoup de livres sur les pathologies du sommeil, mais on a oublié une grande inconnue, qui est la notion d'hygiène de sommeil. Et donc, vous connaissez 5 fruits et légumes, vous connaissez 10 000 pas par jour. L'idée de vous apprendre une durée minimale requise de sommeil pour les adultes, c'est-à-dire 7 heures, et ce, 7 jours par semaine régulièrement, c'est un des fondamentaux de l'hygiène du sommeil qui vous permet, entre autres, de lutter contre le manque de sommeil et de récupérer votre niveau d'énergie.
Jimmy ?
Tout d'abord, j'aimerais dire que vraiment, votre livre est extraordinaire. C'est une pépite, on apprend plein de choses. Et du coup, sur ces 7 x 7, 49, est-ce qu'on en est loin, les Français ? Parce que peut-être qu'on n'est pas si mauvais.
Alors, c'est une très bonne remarque. Et effectivement, on en est loin. Alors, on le savait déjà parce qu'on avait eu des études épidémiologiques. Le Covid nous a encore plus éclairés parce qu'on a fait des études dans la population générale. On a montré que les gens augmentaient leur durée de sommeil. Mais aussi chez des malades, par exemple, traités pour l'apnée du sommeil, on a montré qu'ils augmentaient l'utilisation horaire de machines pour respirer la nuit. Mmh. Ce qui veut dire que vraiment tout le monde réduit son temps de sommeil. Et donc, il y a un message de bon sens qui consiste à dire jamais moins de 7 heures par nuit.
Professeur Philippe, dans votre livre, vous proposez donc un programme anti-fatigue qui est basé donc sur une meilleure hygiène de sommeil. Mais c'est surtout un ouvrage de prévention vis-à-vis des risques aussi liés au sommeil et aux problèmes de sommeil. Parce qu'en France, on est vraiment à l'ouest là-dessus, il faut le dire.
Alors, non, il faut être honnête, on n'est pas à l'ouest. On a un très bon programme de remboursement, par exemple, pour le traitement du syndrome d'apnée du sommeil. On a créé une spécialité du sommeil. On est un des rares pays européens à avoir une surspécialité du sommeil. Mais par contre, il y a une disproportion entre tous les programmes de prévention et d'éducation et les programmes de traitement, ce qui est assez classique, malheureusement, dans le schéma français. Et donc, c'est ce pourquoi j'ai écrit ce livre, pour essayer de rattraper ce retard.
Jimmy.
Et puis, il y a quelque chose d'assez fondamental, j'ai cru comprendre dans vos découvertes, dans vos recherches, c'est le lien entre fatigue et inflammation, en particulier celle du cerveau.
Voilà, alors, on sait maintenant, depuis quelques années, qu'en fait, la fatigue, c'est un symptôme qui est associé à un processus biologique, qui est l'inflammation de bas grade. Il y a une libération de neurotransmetteurs, les cytokines, au niveau de votre cerveau, qui va bloquer la libération de dopamine, de noradrénaline, et c'est ça qui vous fatigue. Et donc, on savait que l'alimentation méditerranéenne et le sport, ça agissait très bénéfiquement sur l'inflammation. On sait maintenant que l'augmentation de la durée de sommeil a la même action, d'où l'idée de pouvoir agir sur les trois composantes et pas que sur deux.
Et vous dites aussi que ce livre, finalement, et ce programme, tous ces conseils que vous prenez dans votre livre, ils sont utiles particulièrement dans le contexte actuel, le contexte sanitaire de coronavirus. La fatigue, on sait, des gens qui ont eu le coronavirus en mars, avril, certains sont encore fatigués. Il y a des choses qui s'expliquent, hein, je crois, vraiment liées à ce contexte.
Alors, il y a un premier élément d'abord. Moi, ce qui m'a frappé dans mes consultations, c'est que les gens ne savent pas déterminer leurs besoins de sommeil. Donc, un des avantages du livre, c'est que la première partie du programme, c'est apprendre en notant régulièrement et avec des petites astuces dont on parlera, comment est-ce qu'on peut déterminer ses besoins de sommeil. Une fois que ça s'est fait, effectivement, on a énormément de fatigue en ce moment. Un patient Covid sur deux guéri reste fatigué. Et donc, c'est aussi des clés pour récupérer son énergie et mieux affronter le stress psychosocial.
Jimmy ?
Parce que souvent, on pense que le manque de sommeil entraîne une fatigue et que cette fatigue n'aura pas de conséquences sur notre santé. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les risques d'un manque de sommeil sur notre santé ?
Alors, avant, on pensait que le sommeil ne servait qu'au fonctionnement du cerveau et par exemple à la mémoire et à l'apprentissage. Maintenant, on sait que le sommeil sert au fonctionnement de tous les organes. Donc, par exemple, ce qu'on a très bien montré, c'est que manquer de sommeil, ça peut favoriser la prise de poids et l'obésité, en rendant ainsi une résistance. Mais on a aussi récemment montré que, par exemple, manquer de sommeil, ça fragilise l'immunité. Ça veut dire qu'on devient vulnérable aux infections. Et donc, dans ce contexte, malheureusement, très négatif avec la pandémie du Covid, c'est très important d'avoir une bonne hygiène pour réduire son niveau inflammatoire et avoir un faible niveau de fatigue, mais aussi pour se prévenir des inflammations.
D'ailleurs, dans votre livre, il y a vraiment des tonnes d'exemples très concrets, des exemples, des conseils. Et pour bien illustrer justement cet impact du manque de sommeil sur l'effet sur l'organisme, vous expliquez dans votre livre que veiller 24 heures sans dormir, pour l'organisme, c'est comme avoir bu de l'alcool, c'est ça ?
Alors, effectivement, c'est une étude qui a été menée par un collègue et ami à moi en Australie, où des syndicalistes leur avaient demandé, mais si on conduit pendant 24 heures sans s'arrêter, ça fait quoi par rapport à la bière ? Et donc, il avait fait une étude très amusante où il a fait boire progressivement des sujets sains. Et après, il les a privés de sommeil. Il a montré qu'au bout de 17 heures, on avait 0,5 g d'alcool dans le sang. 17 heures de veille continue. Au bout de 24 heures, on avait 1 g d'alcool.
Oui, c'est énorme.
En termes de performance et de temps de réaction.
Dans 10 minutes, nuit blanche, 1 g d'alcool dans le sang. C'est quand même,
à chaque garde, c'était 1 g d'alcool dans le sang, finalement, sans s'en rendre compte. Avec la sécurité, peut-être des patients. Enfin bon, c'est encore une autre histoire. Vous dites que le sommeil permet de nettoyer son cerveau. On peut éliminer en fait, des toxiques qui peuvent être nocifs sur le long terme.
Alors là, on revient à une composante beaucoup plus neurophysiologique, hein, qui est que, en fait, on a découvert qu'il y avait, au cours du sommeil, un mécanisme de nettoyage intracellulaire, c'est-à-dire dans les neurones, pour éliminer les protéines. Et on sait que les maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, elles sont liées à l'accumulation de protéines dans le cerveau. Donc, une des hypothèses, mais c'est encore très amont, hein, c'est que justement, les troubles du sommeil peuvent favoriser l'accumulation de protéines et donc pourraient favoriser la survenue de troubles neurodégénératifs.
On va essayer de passer à vos conseils pratiques pour améliorer évidemment notre état de fatigue en 4 semaines. Mais d'abord, dans votre livre, vous nous proposez de découvrir finalement à quel chronotype de dormeur on appartient. Et moi, je me demandais si vous pouviez essayer de me dire à quel chronotype de dormeur appartient le docteur Jimmy Mohamed. Je ne sais pas, en quelques questions comme ça pour nous donner une idée.
Oui, alors il y a une première question simple, c'est si vous devez faire une heure de footing, est-ce que vous pouvez préférer la faire entre 8h et 9h du matin au sous du lit, plutôt entre 14h et 15h ou plutôt entre 19h et 20h?
Moi, je préfère ne pas en faire, mais plutôt au milieu d'après-midi. 14h, on va dire 14h, ouais. C'est pas mal.
D'accord, très bien. Après, une question un peu plus compliquée, s'il faut faire votre déclaration d'impôt, c'est-à-dire que vous soyez concentré pendant une heure, c'est le matin après le petit déjeuner, après le déjeuner de midi ou alors le soir après dîner.
Comme c'est souvent douloureux, plutôt en fin de journée, histoire une fois qu'on a géré l'après-midi.
Donc plutôt en fin de journée.
Plutôt en fin de journée.
D'accord. Et après, si vous devez faire quelque chose qui vous fait plaisir, mais qui occupe vos mains, par exemple bricoler la maison, installer une étagère, ça, vous préfériez le faire tôt le matin, en milieu d'après-midi ou le soir.
Il a envie de dire jamais encore.
Oui, ma femme préfère que je le fasse jamais, tellement je suis mauvais bricoleur, mais fin d'après-midi, début de soirée.
D'accord.
Alors, il fait partie
bon,
de
alors, vous avez. Alors d'abord, sans vous connaître personnellement, je pense que vous êtes plutôt entre 30 et 40 ans d'âge, donc assez naturellement.
Je pense que vous êtes une feignasse, mais il ne l'a pas dit.
Donc, il faut savoir que plus on vieillit, plus on devient du matin, donc vous êtes encore plutôt dans le périmètre. Du soir. Vous n'êtes pas un sujet du soir extrême hein, parce que vous m'auriez dit que vous auriez fait ça à 22h ou 23h, mais vous êtes plutôt intermédiaire en typologie soir, je pense.
C'est exactement ça.
On peut trouver.
Donc c'est des méthodes d'évaluation simples. Il y a un petit questionnaire d'ailleurs dans le livre Antifatigue qui vous permet de vous scorer pour voir justement quel est votre profil.
Jimmy.
Tout à l'heure, vous parliez du 7x7, 49 heures de sommeil, mais si jamais on atteint ces 49 heures de sommeil, en essayant de tout rattraper le week-end. On a une dette de sommeil du lundi au vendredi, les semaines sont chargées, et on se dit, je mets le paquet le samedi dimanche, je dors 12 heures. Si on arrive à ces 49 heures, mais d'une façon un peu différente, est-ce que ça marche ?
Alors, on a montré malheureusement que ça ne marchait pas, en particulier pour les composantes endocriniennes et métaboliques. Par exemple, on a regardé l'insulinorésistance, et les gens qui se privent dans la semaine, en fait, ils ne réussissent pas à rattraper dans le week-end leur taux d'insulinorésistance. Imaginez, pour le rapporter à une autre composante qu'on connaît bien, si vous disiez « je vais manger un repas par jour, 5 jours par semaine, et puis 5 repas le week-end », vous passeriez la semaine affamée. Donc c'est un petit peu dans la même ligne. Il faut que vos horloges soient en accord avec vos besoins, d'où l'idée d'avoir une régularité dans vos durées de sommeil.
Alors, quand on commence votre programme, vous dites d'abord qu'il faut poser les bases. Et la base, le point de départ, peut-être la chose la plus importante, c'est de se lever chaque jour à la même heure. Pourquoi c'est si important ?
Alors en fait, ça c'est ce que j'appelle l'encre chronobiologique et que j'explique à mes patients, c'est qu'en fait, beaucoup de gens pensent que la meilleure façon de caler son sommeil, c'est de fixer une heure d'endormissement. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut jeter une encre chronobiologique avec l'horaire du lever parce que c'est votre durée d'éveil qui va déterminer votre pression de sommeil et donc votre avis de vous endormir. Donc, on commence par fixer régulièrement une heure de lever. Petit à petit, grâce à l'agenda du sommeil dans le livre anti-fatigue, vous allez mesurer en gros naturellement combien d'heures il vous faut et à quelle heure vous avez sommeil. Mm-hmm. Et après, vous allez voir que progressivement, vous n'avez plus besoin de réveil.
Jimmy.
Et on fait ça quand ? Pendant les vacances ou quand on travaille ?
Alors, idéalement, c'est de choisir une heure de lever qui est socialement compatible. Parce qu'un des facteurs majeurs, on a vu, de privation de sommeil, c'est les impératifs sociaux. C'est-à-dire que les gens se fixent une heure à la semaine pour aller travailler et le week-end, ils dérapent complètement. Mais en retardant massivement l'horaire de lever, ils perdent la notion de l'horaire du coucher. C'est ça qui entraîne, par exemple, des plaintes d'insomnie très fréquentes. Parce que quand vous vous levez à 11h du matin, bien sûr, à 22h le dimanche soir, vous n'avez pas sommeil.
Vous dites aussi que c'est important de régler son temps passé au lit et que la première semaine, c'est 7 heures max dans le lit, hein, c'est ça ?
Voilà, alors, une autre chose qui est assez paradoxale, c'est pour ça que l'hygiène du sommeil, c'est très important, c'est que plus on vieillit, moins on a besoin de sommeil. Par exemple, à 65 ans, on peut avoir une heure de veille, sommeil, intra-sommeil physiologique, d'accord ? Donc, il y a plein de gens qui s'en fichent, ils se lèvent le matin, ils vont manger une tartine, ils se recouchent. Il y a d'autres gens qui développent une anxiété anticipatoire parce qu'ils voudraient dormir à 60 comme à 18. Si je vous disais courez le 100 mètres à la même vitesse à 64-18, vous direz c'est pas concevable. Voilà. Donc l'idée de tenir 7 heures, c'est au moins d'être dans un cadre un peu calé, à faire évoluer si besoin.
Mmh. Et quand on est un petit dormeur, mieux vaut réserver le lit que pour dormir, on fait pas d'autres activités à côté dedans ?
Alors là aussi, bon, la phrase clé, c'est dodo crac-crac et le reste, c'est hors du lit. C'est un message qui est bien retenu, généralement.
Le message est passé.
Voilà.
Mais effectivement, il faut privilégier un espace de sommeil dans le lit parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, développent des activités annexes, regarder Netflix, lire des livres, y compris l'excellent livre anti-fatigue. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment associer le lit à l'endormissement.
Professeur Philippe, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Pierre-Philippe. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et l'auteur du livre Antifatigue qui vient de sortir chez Albin Michel. Alors, votre programme Antifatigue, programme de prévention hein, qui prône une meilleure hygiène de sommeil, il s'appuie notamment sur l'activité physique également. Comment le fait de bouger davantage finalement va agir sur notre niveau de fatigue ? Moi, j'ai l'impression que bouger, et Jimmy le confirmera, c'est fatigant.
Alors... C'est gratuit ça.
Alors, donc, comme on l'a dit, la fatigue, ça a un substrat biologique qui donne cette inflammation. Et le sport, ça réduit l'inflammation. D'accord ? Donc, le sport réduit l'inflammation. La nutrition peut réduire l'inflammation. Le sommeil, dans la même mesure, ça va réduire l'inflammation. Et ça va donc directement agir sur le principe du sentiment de fatigue. Donc, c'est un cercle vertueux qu'il faut associer. Et comme on le sait, chaque brique a un effet limité. Par exemple, si vous faites que bien manger, mais si vous ne bougez pas, globalement, votre niveau d'énergie va être plus limité que si vous mangez bien et que vous bougez. C'est le programme national nutrition santé. Ce qu'on a oublié, c'est de dire que bien dormir, c'est aussi fondamental. Et on sait malheureusement que les Français ne le font pas encore puisqu'ils sont en dette de sommeil. Donc l'idée, c'est la trilogie pour améliorer notre énergie.
Jimmy.
Et donc en pratique, on fait comment le matin ? On met en place une routine d'activité physique. Et je crois même que vous proposez de faire des pompes quand on a un coup de barre et apparemment certains le feraient.
Hein.
Oui, non mais apparemment ça marche.
Alors d'abord l'idée c'est le matin c'est de bien caler l'horloge en démarrant par une activité physique douce, plutôt faire du stretch et puis faire des abdos ou des étirements, d'accord ?
Ouf, les pompes c'est pas dès le réveil.
Pour envoyer un signal au corps humain. Non, après les pompes c'est un petit encarté dans le livre mais on l'a appris avec les militaires. En fait, si vous augmentez votre pression sanguine artérielle, vous stimulez des récepteurs dans la carotide et ces récepteurs, ils ont une action directe sur le cerveau qui vous éveille.
C'est pour ça que les militaires, ils font des pompes au réveil.
Donc, exactement.
D'accord.
Donc, donc, on sait aussi que, par exemple, si on commence à s'endormir, si on marche, ben on ne s'endort plus. Dès qu'on se pose, on s'endort. Ce n'est pas que parce qu'on s'ennuie, mais c'est parce que votre pression sanguine baisse et donc vous vous effondrez. C'est aussi une des modalités d'action du café. Mmh. Au début, le café, il vous tachycardise, il accélère votre cœur. Et c'est ça qui vous réveille instantanément. Et ça n'agit au niveau du cerveau qu'au bout de 20 minutes.
Mmh. Jimmy, c'est pas maintenant les pompes, levez-vous. Allez-y.
Et vous dites que du coup, on pourrait investir dans un podomètre, étant donné que ça coûte pas très cher. Qu'est-ce qu'on regarde du coup avec le podomètre ?
Alors, avec le podomètre, on regarde 10 000 pas par jour. Mais ce qu'on a montré, on a mené des expérimentations pendant le confinement et pendant le Covid, c'est que le fait de se monitoriser, de se suivre, c'est-à-dire de noter son alimentation, de noter son activité physique et son hygiène de sommeil, ça a un effet renforçateur et ça permet aux gens de se rassurer par rapport à leurs symptômes en moyenne. D'accord ? Imaginez qu'un jour, vous vous demandiez comment vous avez faim. Peut-être que vous mourrez de faim, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes affamé toute la semaine. Donc l'idée de monitoriser ça, y compris l'activité physique, ça vous aide à avoir un calcul un peu hebdomadaire.
Autre pilier de votre programme pour un bon sommeil et moins de fatigue, c'est l'alimentation. Et d'ailleurs, dès la première semaine de programme, vous dites qu'il faut viser le 100% méditerranéen. Pourquoi ?
Alors, dans le livre, il y a des objectifs. Et le premier message, c'est de dire faites ce qui vous paraît atteignable. En visant, bien entendu, 4 semaines pour avoir tous les voyants au vert. Mais le premier message, c'est de dire globalement, on mange trop de viande, on ne mange pas assez de produits entre parenthèses anti-inflammatoires, c'est-à-dire type régime crétois, légumineux, huile d'olive, tomate, feta. Donc, essayez d'enrichir votre alimentation avec ce type de produit et ça contribuera, sur une période assez longue, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça contribuera à abaisser durablement votre seuil inflammatoire.
Jimmy.
On commence à comprendre que la lumière bleue des téléphones portables, des tablettes peut perturber notre sommeil. Du coup, est-ce qu'on a peut-être un ou deux messages simples qu'on peut faire passer aux gens pour essayer d'avoir un sommeil de meilleure qualité quand on doit se servir de son téléphone ?
Alors, plus largement même, je pense que le message qu'il faut dire aux gens, c'est que si vous prenez de la lumière le soir, qu'elle vienne de votre téléphone ou parce que vous êtes en terrasse avec des amis au café, vous allez repousser votre heure d'endormissement parce que vous allez décaler la production de mélatonine. Si vous la prenez le matin, c'est exactement l'effet inverse. Donc en fait, les gens qui ont des problèmes d'endormissement le soir, on leur conseille de mettre des lunettes de soleil.
En sortant du boulot à 17h, on met des lunettes.
Absolument, ouais. Assez occlusives, un peu des lunettes de glacier, vous savez, qui couvrent le côté des yeux.
Ah ouais.
Pour abaisser le signal chronobiologique et faciliter l'endormissement, ceux qui ont du mal à se réveiller le matin, ben on leur dit de suite dès le matin, prenez du soleil.
Ouvrez en grand les fenêtres.
Voilà, ouais. ou quitte à vous lever et partir au boulot à pied. Et ça, c'est un signal fort qui va recaler votre horloge pour agir justement sur vos rythmes.
Une dernière petite question, Jimmy.
Si on veut faire la sieste, c'est combien de temps ? Est-ce que vous n'avez pas une petite astuce pour se réveiller un peu plus vite ?
Oui, parce que Jimmy, la sieste, c'est 3h30 en moyenne, donc c'est pas bon.
Alors, bon, il faut distinguer la sieste plaisir de la sieste utile, y compris avec d'autres composantes dans la sieste. Mais,
la sieste.
Mais en gros, schématiquement, normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de faire la sieste. Si vous devez faire la sieste, parce que dans une période de votre vie, ce qui est normal, vous devez comprimer votre durée de sommeil, ce qu'on recommande sur des périodes très courtes, c'est de prendre un café et directement de vous mettre en position de recherche de sommeil, de sieste. Le café met en gros 10 à 20 minutes à agir, donc il vous réveillera en supprimant l'inertie du sommeil et ça fera un peu mon compte double, voilà, mais à utiliser avec précaution et que dans des périodes spécifiques.
Merci beaucoup, professeur Philippe, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, on a compris que la clé de la santé, c'est une bonne hygiène de sommeil. 7 fois 7 égale 49 heures. 49 heures de sommeil par semaine. Et pour y parvenir, j'appelle donc votre livre « Anti-fatigue » chez Albin Michel. Merci encore, professeur.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux produits cosmétiques. Le magazine 60 millions de consommateurs, sorti fin août, en a analysé plus de 80 issus de la grande distribution. Dentifrice, gel douche, mousse à raser. Nous verrons quels sont ceux qui contiennent des produits chimiques qu'il vaut mieux éviter pour notre santé. Et Benjamin Lévesque, en attendant, a été vous interroger. Sur le sujet, on écoute tout de suite son micro-trottoir.
Je me mets soit de la crème à raser, soit du dentifrice, soit de baume après rasage, soit un petit fond de teint pour être beau toute la journée, mais ça s'arrête à ça. Je ne regarde pas la composition.
Si c'est vraiment des produits naturels, qu'il n'y ait pas du tout de substances chimiques, parce que ça c'est très mauvais pour la peau.
Bio pas forcément, mais le critère le plus important pour moi c'est pas tester sur les animaux. C'est ce qui me semble le plus important. Mais ça reste très compliqué à lire les étiquettes et à comprendre tous ces termes.
Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients, on va dire, controversés. Donc je sais qu'il n'y a pas 15 000 ingrédients dont j'arrive pas à déchiffrer la moitié des noms. Quoi.
Heureusement qu'il y a des conservateurs, sinon on ne pourrait pas les conserver, les produits.
Moi je pense qu'à force d'en mettre, ça peut provoquer soit des cancers, par exemple cancer de la peau.
Probablement cancérogène, donc voilà. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la parano. Ça existe depuis des décennies et on n'en est pas mort. Quoi.
Bon, Jimmy, on va reprendre du début ce numéro de 60 millions de consommateurs qui a épinglé, on va le voir, des produits cosmétiques très courants qu'on utilise tous les jours. Ça a de quoi nous affoler et franchement nous faire vider tous nos placards, non ?
Oui, l'idée, non, c'est pas non plus de faire peur aux gens ni de leur faire la morale. C'est simplement de prendre conscience que les produits que nous utilisons au quotidien, comme les crèmes, les dentifrices, peuvent avoir un impact.
Corps, plus,
exactement,
hein,
puisqu'on a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur. Mais non, ça peut avoir une vraie influence sur notre santé, dans le bon, mais aussi dans le mauvais.
Alors concrètement, il y a quoi dans ce magazine ? Ils ont fait comme d'habitude, j'imagine, une sélection assez large de cosmétiques courants et les ont analysés, c'est
oui,
ça ?
Oui, je vous renvoie vers le numéro qui est très intéressant. 86 produits cosmétiques issus de 6 familles différentes que le magazine 60 millions de consommateurs a passé au crible pour son étude cosmétique. Et ils ne sont pas contentés de dire c'est bon, c'est pas bon. Ils ont établi un cosméto-score, c'est un score de calcul global qui va prendre en compte l'impact sur votre santé, mais aussi l'environnement, en fonction des ingrédients, de la quantité du produit et de l'utilisation qui en est faite.
Mmh. Et Jimmy, on va pas dire donc tel produit ou tel produit aujourd'hui ici, hein, il faut aller voir dans le magazine pour voir si ce qu'il y a dans votre placard est dans la liste noire, mais en tout cas, il y a des produits par famille, des substances par famille qui posent problème.
Oui, on va prendre deux exemples très simples. Les crèmes hydratantes, parfois elles contiennent des polymères dont la fabrication est polluante ou des colorants qui sont dits azoïques, dont certains sont potentiellement cancérogènes en plus d'être sensibilisants et irritants. Et c'est vrai que ça pose problème vu que vous en mettez sur votre visage ou ailleurs. Et même chose avec les dentifrices. On va vous donner quelques marques en vrac. Ça ne posera pas de problème. Oral-B, Sanogyl, Sensodyne, Signal, Vanemecum, dans lesquels on peut trouver des traces de métaux lourds comme le zinc et l'étain ou encore du dioxyde de titane qui peut contenir des nanoparticules et est soupçonné aussi d'être cancérogène.
Bon, il faut quand même se laver les dents, n'oubliez pas, c'est important cette rentrée, même si là, on n'a plus du tout envie. Bon, Jimmy, le message pour terminer, c'est faites attention à ce que vous mettez dessus. Hein, c'est
oui,
ça.
Soyez vigilants, soyons des conso acteurs et pas simplement des consommateurs. Je vous ai séché là. Voilà, soyez vigilants quand vous faites vos courses.
Conso acteur. Conso acteur. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Jean-Marc Sabaté. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Vous êtes également l'auteur du livre « Intestin irritable, équilibrez votre microbiote et faites la paix avec votre côlon » aux éditions Larousse. Professeur, disons ce qui est. Le côlon irritable, la colopathie fonctionnelle, c'est pas un sujet très sexy, mais c'est quelque chose de très concernant. D'abord, c'est une maladie qui concerne combien de Français, grosso modo ?
Alors, on estime actuellement que ça concerne 5 à 10% de la population adulte, donc facilement plus de 3 millions de personnes, alors à des degrés divers, puisqu'il y a des gens qui ont des sévérités importantes, la maladie peut gâcher leur vie. Et pour d'autres, ils vont simplement consulter une fois de temps en temps. Certains même ont des symptômes, mais ne consultent pas.
Jimmy ?
Et ça concerne quel type de patients ? Plus des hommes, des femmes ? Est-ce que plutôt des jeunes, des
Alors,
vieux ?
Ça concerne plutôt des femmes. On a 2 femmes pour un homme parmi les malades. Et c'est souvent des sujets jeunes. En tout cas, c'est comme ça qu'on se les imagine en consultation, notamment en médecine générale. Mais ça peut toucher en fait tous les âges. Là, on a fait une enquête avec une association de patients et on a vu que parmi des sujets qui ont la maladie à l'âge adulte, il y en avait 42% qui avaient déjà eu la forme pendant la scolarité avec un impact dont on pourra reparler si ça vous intéresse. Et puis, on a aussi des gens qui sont retraités et qui ont été malades pendant une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, ça peut toucher en fait à tous les âges.
Professeur Sabaté, je vais insister dès le début de cet entretien sur un point, hein, l'intestin irritable, la colopathie fonctionnelle, c'est une vraie maladie. C'est très important de le dire car elle est encore trop niée, je crois, par le corps médical même.
Alors effectivement, il y a ce problème-là d'une maladie où les examens qu'on réalise sont normaux. Si vous avez du diabète, vous pouvez montrer les résultats de votre glycémie. Si vous avez une maladie digestive, qui est la maladie de Crohn, on peut montrer le résultat de sa coloscopie, qui peut montrer des ulcérations. On a des prises de sang qui sont anormales. Là, tout est normal, tous les examens sont normaux et vous êtes relativement jeune et avez l'air bien portant.
Jimmy ?
Bien portant, vous avez des symptômes. Du coup, quels sont les plus fréquemment retrouvés chez les patients ?
Alors les symptômes d'ailleurs qui font partie de la définition, puisqu'il n'y a pas de test diagnostique, c'est le fait d'avoir de manière chronique, on estime qu'il faut au moins depuis 6 mois, des douleurs abdominales relativement fréquentes. On estime actuellement avec la nouvelle définition que ça doit être plus d'une fois par semaine. Mmh. Et c'est associé à une modification de la fréquence ou de l'aspect des selles, avec des gens qui ont plutôt la diarrhée, d'autres qui sont plutôt constipés et certains qui ont une alternance entre diarrhée et constipation. Les ballonnements ne font pas partie de la définition, mais ils sont très fréquents. On les retrouve chez plus de 90% des patients.
On parlait juste avant du fait que le corps médical lui-même parfois nie encore cette maladie. Et d'ailleurs, je crois que vous, dans votre cabinet, alors vous êtes spécialiste, hein, donc vous les voyez déjà souvent après quelques mois ou années d'errance médicale. Ils arrivent et les patients, par contre, ils ont déjà le diagnostic. Ils se diagnostiquent tout seuls.
Alors effectivement, c'est une des rares maladies que je connaisse où souvent certains patients viennent et disent « je pense que j'ai cette maladie
ouais. ».
Ce n'est pas une démarche habituelle, puisqu'on dit « je suis suivi par mon médecin pour cette maladie » ou « on m'a diagnostiqué telle maladie ». Là, il y a souvent en fait, des patients qui recherchent finalement sur Internet, ils voient les examens qu'ils ont réalisés et ils trouvent que ça correspond en fait à la colopathie fonctionnelle, mais ça n'a pas été verbalisé par le médecin traitant. Et ça, ça représente au moins 10% des patients.
Ah oui, quand même. Jimmy ?
Et justement, vous avez dit un des maîtres mots, donc c'est la douleur qui persiste avec la modification du transit. Mais ils ont quel type de douleur ? Des spasmes, ça tord, ça brûle, ou est-ce qu'on peut avoir tout un champ lexical de douleurs finalement ?
Alors, vous l'avez très bien dit, hein, c'est des douleurs qui peuvent toucher d'abord n'importe quelle partie de l'abdomen. Ça peut d'ailleurs varier, changer d'endroit. Et les douleurs, ce qui revient le plus souvent, c'est le mot spasme. Ça peut être aussi pesanteur, brûlure, mais il n'y a pas de spécificité là aussi. Donc, c'est très vague finalement comme type de douleur.
Dans la colopathie fonctionnelle, il y a, vous l'avez dit, bon, des troubles du transit. D'ailleurs, c'est un problème un peu tabou. Et vous, pour briser la glace, quand vous avez les patients qui viennent dans votre cabinet, vous avez une échelle, enfin un dessin sur lequel il y a cette consistance de sel. Et ça fait partie des choses dont il est important de parler au début de cette maladie.
Alors oui, on a souvent des problèmes pour parler de cette maladie. Moi, effectivement, dans ma poche, dans la poche de ma blouse, j'ai une petite réglette qui représente les sept types de consistance de sel.
Et avec ça a été, caca, quoi.
Voilà, ça a été inventé. Ça a des sels très durs sous forme de billes à des sels complètement liquides. Et ça a été inventé par des Anglais de la ville de Bristol. Donc, on appelle ça l'échelle de Bristol.
Et les patients, ils vous disent, mais oui, c'est celle-là,
voilà,
c'est la numéro 3.
Effectivement,
que j'ai...
ça m'est déjà arrivé que le mari, d'ailleurs, de la dame qui vient consulter, dise tout d'un coup,
s'ennuie
un peu. Voilà, pour moi, c'est comme ça.
Ça brise la glace, en tout
cas. Ça brise la glace, ça peut briser la glace.
Jimmy.
On fera votre échelle pendant la pub, si vous voulez, Mélanie, comme ça, on brisera la glace encore plus. Mais on parlait tout à l'heure d'impact sur la vie, on parlait d'intestin irritable, on a l'impression colon fragile. Est-ce que ça peut avoir un vrai impact sur la qualité de vie des patients ?
Alors, chez 25% des gens qui sont les formes les plus sévères, mais aussi chez d'autres patients moins sévères, on peut avoir une altération de qualité de vie qui peut être aussi importante, voire plus, que dans des maladies chroniques qui, elles, aujourd'hui, sont reconnues en ALD. Par exemple, des études aux États-Unis ont montré que c'était aussi sévère que des gens qui vont en dialyse trois fois par semaine, que des gens qui sont en dépression sévère.
Oui.
Et par exemple, en comparant deux maladies digestives et la maladie de Crohn, on peut avoir plus d'idées suicidaires et de tentatives de suicide, une altération plus importante de la sexualité que dans la maladie de Crohn.
Vous nous disiez tout à l'heure que bien souvent, les patients se diagnostiquent tout seuls, enfin arrivent dans votre cabinet en disant « Ah là, sur Internet, j'ai trouvé, je sais ce que j'ai ». Parce qu'en fait, il n'y a pas d'examen particulier pour confirmer ce diagnostic.
Non, jusqu'à présent, aucun examen ne permet d'affirmer qu'on a cette maladie. Et finalement, il y a pas mal d'examens qui sont faits en France parce qu'ils sont remboursés. C'est assez facile de faire des examens, y compris une coloscopie. Mais ces examens sont tous normaux.
Et quand ils arrivent, d'ailleurs, ils en ont déjà fait un paquet d'examens en général.
En général, en France, c'est facile de faire des examens et même de les refaire. On avait fait une enquête avec la Sécurité sociale. Certaines personnes ont fait jusqu'à 3 scanners, qui n'ont aucun intérêt.
Eh oui.
Deux échographies abdominales.
Des coloscopies, des fibroscopies.
Voilà, des examens faits et refaits parce qu'ils sont inquiets. Et donc, leur dire qu'ils n'ont rien, ça ne les rassure pas si on ne donne pas les explications qui vont avec.
Jimmy.
Donc, les examens sont normaux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'examen. Est-ce qu'on doit quand même en faire quand on a une colopathie fonctionnelle? Enfin, quand on pense en avoir une, et si oui, lesquelles?
Alors, c'est le médecin qui doit décider si vous devez les faire. Le médecin généraliste doit être au centre de la prise en charge. Et il y a certaines circonstances, notamment plus souvent peut-être en cas de diarrhée, pour éliminer des maladies qui pourraient ressembler, comme par exemple les maladies inflammatoires du tube digestif, qui peuvent donner des douleurs abdominales, de la diarrhée. On a aussi les troubles de la thyroïde qui peuvent dans un sens constiper, dans l'autre donner la diarrhée. Aussi ce qu'on appelle la maladie cœliaque, une intolérance au gluten qui peut donner aussi des ballonnements, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Donc il y a certaines maladies à éliminer, mais elles ne sont finalement pas si nombreuses. Et quand on suit bien ces patients, on peut, avec l'interrogatoire simple, faire le diagnostic.
Et par contre, on est d'accord, Jimmy vous demandait s'il y avait quelques examens qu'on pouvait faire justement pour éliminer d'autres maladies éventuellement plus graves. Mais il y a des examens vraiment, par contre, qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'ils coûtent cher et que vraiment, ils ne servent à rien, lesquels?
Alors, vous avez raison d'en parler. Il y a deux examens qui, aujourd'hui, ne servent à rien. Alors, il y en a un sur lequel on était mis un petit peu en alerte, avec même un communiqué de la HAS, c'est les tests d'allergie alimentaire. Ça coûte assez cher, entre 150 et souvent même jusqu'à 300 euros.
Ah oui.
Ça n'a strictement aucun intérêt pour guider le régime que devrait faire le patient pour avoir moins de symptômes. Et le deuxième test qui aujourd'hui n'a pas d'intérêt à titre individuel, c'est l'analyse de votre microbiote qui peut coûter aussi jusqu'à 300 euros.
microbiote fécal. Jimmy.
Est-ce qu'on sait s'il y a des facteurs de risque de développer la maladie? Par exemple, le stress, est-ce que ça peut déclencher des crises ou même tout simplement être un mode de début dans le syndrome de l'intestin irritable?
Alors, il y a deux parties dans votre question. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas malades et vont développer un jour la maladie. Et certaines cohortes ont montré, en suivant des gens bien portants, que les gens qui avaient un terrain un petit peu anxieux ou déprimés ou qui s'intéressaient d'un peu trop près à leur santé, qui étaient un petit peu hypochondriaques, avaient peut-être plus de chances de développer ultérieurement la maladie. Et puis, quand on est malade, quand on a des symptômes importants, eh bien, on craint de les voir venir, on craint d'avoir ces symptômes au moment où on a quelque chose d'important à faire, professionnellement ou sur le plan personnel. Et donc, ça génère une anxiété. Et il y a des gens, effectivement, qui rentrent dans une espèce de cercle vicieux où l'anxiété peut aggraver les symptômes. Et le simple fait d'y penser génère déjà les symptômes.
Alors le stress, d'accord. Est-ce qu'on connaît d'autres causes de l'apparition de cette maladie? Je ne sais pas, est-ce que c'est génétique? Est-ce que, je ne sais pas, un choc psychologique, une gastro?
Alors il y a des facteurs génétiques, mais qui aujourd'hui sont quand même relativement limités. C'est plus des facteurs qui pourraient favoriser ou non la réponse à certains types de traitements, comme c'est le cas par exemple dans les dépressions, avec ce qu'on appelle des polymorphismes. Et puis, il y a d'autres facteurs. Facteurs, vous avez dit, la gastro-entérite. Effectivement, il y a des gens qui vont très bien et puis ils vont faire une gastro assez forte. Si ça survient sur un terrain de stress et si l'épisode dure longtemps, on peut développer après jusqu'à 20% des gens pourraient développer dans les 6 mois qui suivent le syndrome de l'intestin irritable.
Ah oui, quand même. Jimmy ?
Du coup, est-ce qu'on peut imaginer un rôle de la flore digestive, de la flore intestinale, si la gastro-entérite a peut-être perturbé un peu cet équilibre? Est-ce qu'il y a des flores particulières quand on a l'intestin irritable?
Alors, dans ce sous-groupe en particulier, c'est là effectivement qu'on a mis en évidence que, par exemple, certains germes pouvaient favoriser via la gastro l'apparition de la maladie, mais c'est un phénomène aigu et puis qui enclenche quelque chose de chronique, qui n'est pas sûr après qu'on garde ces germes-là. Par contre, quand on a pu faire des analyses du microbiote avec des techniques modernes, on s'est aperçu, c'est ce que disent en tout cas les études, que 2/3 des patients auraient un microbiote un petit peu différent de celui des sujets sains.
Dernière question pour le moment, en tout cas, cette maladie, donc l'intestin irritable, ça peut être très handicapant, ça on l'a compris, mais en tout cas, c'est jamais grave, ça peut pas dégénérer en cancer digestif ou je ne sais quoi.
Alors, c'est important de le rappeler parce que les gens qui ont des symptômes et sur lesquels on met pas de nom de maladie, quand on donne pas d'explication, les gens imaginent toujours le pire et ils imaginent que leur maladie peut se transformer en maladie inflammatoire de l'intestin ou en cancer. Donc, il est important de les rassurer, de leur dire que même si ça peut gâcher leur vie, c'est quelque chose de bénin et on va essayer de trouver des solutions pour les améliorer.
Justement, les solutions, on va y venir. On va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans un instant.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Jean-Marc Sabaté. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny et l'auteur du livre « Intestin irritable, équilibrez votre microbiote et faites la paix avec votre côlon » aux éditions Larousse. Alors, on parle à présent du traitement, donc du syndrome de l'intestin irritable. Parmi d'abord peut-être les mécanismes en jeu, est-ce que vous pouvez nous expliquer les symptômes, les douleurs? L'alimentation, on se dit forcément, ça a un impact. Ce qu'on met dans son tube digestif, ça peut peut-être causer des crises. Je crois qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent en disant « Docteur, j'ai identifié ça quand j'en mange. Typiquement, directement derrière, j'ai des douleurs. »
Alors, les aliments identifiés, effectivement, les patients en rapportent parfois. Mais globalement, c'est 2/3 des patients qui disent que le fait de manger ou déclenche ou aggrave les symptômes digestifs. Et certains, dans des études qui avaient été faites déjà dans les années 2000, 1/2 identifiaient un aliment responsable. Après, si c'est un seul aliment, c'est facile de l'éliminer. Si c'est un aliment sur deux, ça devient plus compliqué.
Jimmy ?
Parce que du coup, s'ils ont un régime d'éviction un peu draconien, puisque si c'est un impact sur leur vie, ils peuvent du coup moins manger, du coup avec un risque peut-être de carence en plus ?
Alors ça a été décrit effectivement. Quand on commence à éliminer un aliment, et puis un deuxième et un troisième, on finit par manger un peu toujours la même chose. Et il y en a même parfois qui, notamment ceux qui ont la diarrhée, sautent des repas quand ils ont quelque chose d'important, donc aussi peut-être moins de calories ingérées pour éviter les symptômes.
Certains patients ont tendance aussi à faire des jeûnes alimentaires. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'au contraire, ça peut apporter un bien-être à ces patients-là?
Alors pour certains, le fait de jeûner sûrement peut améliorer les symptômes. En tout cas, ce n'est pas recommandé. Hein. Il y a juste une étude japonaise qui l'a fait, mais ce n'est pas envisageable comme traitement sur la durée. Après, il y a certains régimes qui ont montré parfois une efficacité dans la maladie.
Justement, Jimmy.
Justement, quel régime on peut proposer à des patients? Un truc pas universel, mais qui pourrait marcher dans une bonne proportion des malades?
Alors, le régime qui est le plus en vogue actuellement, et sur la base d'études qui ont été réalisées essentiellement par des Australiens et après par des collègues européens, c'est ce qu'on appelle le régime pauvre en FODMAPs. En fait, c'est la diminution des sucres qui favorisent les fermentations. et qui provoque des troubles du transit, de la diarrhée, des ballonnements, des flatulences.
Les FODMAP, alors, c'est quoi précisément alors, comme aliment ?
En fait, donc c'est un acronyme aussi, parce que ça ne veut rien dire en soi, c'est un acronyme pour dire l'aliment qui favorise les fermentations, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols.
Et en aliment, ça veut dire quoi ?
Et en aliment, alors, il y a ce qu'on reconnaît facilement, le chou, il y a l'oignon, il y a aussi certains fruits, et que les gens ne pensent pas forcément leur augmenter les symptômes digestifs, mais par exemple les cerises, la poire, la pomme, la mangue. Donc, il y a tout un tas d'aliments. Donc, c'est assez complexe, un, de le faire. Il faut voir des diététiciennes formées où on peut s'aider d'applications ou de livres qui donnent les aliments ou les recettes. Et aussi, c'est difficile à suivre sur la durée.
Du côté des traitements médicamenteux, je crois qu'on peut dire que malheureusement, il n'y a pas un traitement de référence dans cette maladie.
Alors, il n'y a pas un traitement qui convient à tout le monde. Pour les patients les moins sévères, c'est souvent des antispasmodiques qui sont utilisés par les médecins traitants. Aussi des modificateurs du transit. Quand les gens ont la diarrhée, parfois on essaie de ralentir le transit, de rendre les selles plus épaisses ou d'accélérer le transit pour les gens qui ont un transit trop lent. Et puis on utilise aussi parfois des antidépresseurs qui peuvent avoir un effet notamment sur la douleur et d'autres médicaments dont on détourne parfois l'utilité principale parce qu'on a peu de nouveaux médicaments en France concernant cette maladie.
En fait, du hors AMM, mais maîtrise encadrée. Jimmy ?
Est-ce que le pouvoir de conviction du médecin est important si on reconnaît leur maladie, si on leur propose un traitement qui n'est peut-être pas le plus efficace, mais qu'on le donne avec conviction en disant « vous allez aller mieux », eh bien on va peut-être aussi les aider. On a peut-être, nous, un rôle, même si on n'a pas de traitement, dans la prise en charge de la maladie.
Ça pourrait éventuellement favoriser ce qu'on appelle l'effet placebo, hein, de mettre beaucoup de conviction dans le traitement qu'on donne aux patients. Seulement dans cette maladie, par expérience, souvent le traitement que vous donnez va être inefficace. Et par exemple, en France, le premier motif de consultation, c'était l'inefficacité de ce qui a été prescrit. Donc finalement, je pense qu'il vaut mieux être prudent, expliquer qu'il y a une démarche, peut-être d'essayer différents traitements dont chacun peut être actif sur un ou un autre mécanisme, peut-être présent chez ce malade-là en particulier, et donc d'envisager une relation dans la durée. Et la relation médecin-patient qui est notamment abîmée dans cette maladie parce qu'ils n'ont pas l'air malades, c'est des gens qui ont l'air bien portants, le médecin ne les écoute pas trop. Hein, j'ai même une petite blague de gastro qui dit le colopathe me colopathe. Hein, parce que c'est des malades qui reviennent un peu comme un
tout
chewing-gum, toujours en vous mettant en échec de ce que vous donnez. Je pense que la relation médecin-patient est très importante dans cette maladie.
Pour terminer, dans votre livre, vous parlez beaucoup du rôle du microbiote dans cette maladie ou de son intérêt, en tout cas d'intérêt d'agir dessus. Est-ce que les probiotiques ou les prébiotiques, il y en a beaucoup, même en supermarché, on nous vend des petits yaourts remplis de bonnes bactéries qui nous feraient soi-disant du bien. Est-ce que tout ça, c'est utile, c'est très fou, c'est que marketing ou est-ce que ça marche pour ces patients-là ?
Alors, ça a des chances de marcher si ça a été testé dans des études médicale bien faite et notamment contre un placebo parce que l'effet placebo est assez fort dans cette maladie. Si on a des résultats d'études, on peut s'appuyer dessus pour proposer le même traitement. Mais on ne peut pas extrapoler. Le mot probiotique en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Hein, c'est comme le mot voiture. Une deux chevaux et une Ferrari, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est pareil. Si un probiotique a montré une efficacité, on pourrait proposer le même. Le patient le teste pendant un mois et si ça marche, pourquoi pas le continuer ? Sinon, aucun intérêt.
Jimmy, une toute petite dernière question.
Les yaourts au supermarché qui sont très riches en probiotiques ou en trucs comme ça, est-ce que c'est efficace ?
Alors, certains ont été testés. Une marque célèbre a fait une étude avec deux yaourts par jour. Bon, il faut déjà les manger et ça améliorait la constipation, un petit peu aussi les ballonnements ressentis. Mais c'est insuffisant souvent pour les patients qui ont des symptômes sévères.
Merci beaucoup, professeur Sabaté, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir bien éclairé donc, sur cette maladie, malheureusement encore si tabou, mais qui touche des millions de Français. Merci encore.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Elle entre dans le studio tout de suite, c'est Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui Catherine, on a une question de Victor que je vais vous lire tout de suite. Cela fait plusieurs fois que ma copine me demande de lui faire l'amour debout. C'était très excitant au début, mais c'est tout de même très physique et peu pratique. Est-ce que je dois toujours céder à son envie ou lui dire que je n'apprécie plus tellement ça. Alors Catherine, est-ce que la copine de Victor, elle aime pourquoi finalement elle aime déjà autant faire l'amour debout? Ça, c'est vrai que bon, c'est peut-être pourquoi pas. Cela dit, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'elle recherche dans cette position? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à le faire debout?
Je pense que c'est une position qui laisse à penser que c'est quelque chose de pas prévu. C'est on coince quelqu'un, on le contraint, on joue à la contrainte, on joue à l'urgence, on joue à tout maintenant. J'ai tellement envie de toi que je ne peux pas prendre le temps ni de me déshabiller, ni de me mettre dans un lit, ni d'aller dans la pièce d'à côté. Donc il y a quelque chose qui rend compte et de la sauvagerie et de l'urgence de témoigner de son désir, donc du pulsionnel très fort, de l'irrésistible que représente l'autre, à tel point qu'on la coince contre un mur, on lui relève sa jupe et vite fait, même mal fait, on lui fait l'amour. Sauf qu'effectivement, pour lui, c'est un peu plus compliqué, parce que dans les faits, ça marche très très bien dans les films, c'est un peu plus compliqué dans le réel.
Il n'est peut-être pas très sportif comme d'autres, Jimmy, à vous.
Vous voulez dire que Jimmy est sportif?
Non, non, je faisais vraiment aucun lien.
Pas de problème, ça se paiera. Mais je sais pas, Victor, il est peut-être un peu fragile, non? Parce que bon, il dit plusieurs fois, c'est pas quelque chose de récurrent, si ça lui fait plaisir. Il faut faire un effort, non? Il faut peut-être accepter le temps
de... Se muscler un peu, c'est moins fatigant.
Exactement. Ouais. Alors, la fois d'après, ce sera moins difficile.
Je crois, alors, ce n'est pas évidemment, on ne va pas l'inviter à aller dans la salle de sport. D'autres résistent tellement, on ne peut pas pousser Victor à aller dans la salle de sport. Non, parce que en tout cas, ce qui n'a pas lieu d'être, c'est qu'on y ait de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'elle a envie, on s'en amuse, et puis on lui met un marchepied s'il le faut, ou on se met un marchepied. Et d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est compliqué déjà mécaniquement. Dans l'image, c'est très glamour, c'est super, mais dans la réalité, il y a des hommes qui bandent vers la droite, d'autres qui bandent vers la gauche, donc ça veut dire qu'il faut savoir de quel côté on bande pour savoir de quel côté, quelle est la jambe qu'il faut soulever.
Ça a l'air technique comme truc, finalement.
Il y a des positions, non? Peut-être qu'ils sont plus simples.
Bien sûr qu'il y a des positions plus simples. Toutes les positions plus simples sont les positions où le pénis va exactement par
sa physiologique courbure. Debout, enfin, c'est pas simple debout.
Ah ben, debout, de face, ce n'est pas physiologique. D'accord. Debout, de dos, c'est autre chose.
D'accord. Voilà. Bon, bah, mais, c'est clair, vous avez
mais en l'occurrence, elle n'est pas nécessairement dans l'envie que ça se fasse autrement que comme ça. Donc ça pose aussi la question de pourquoi je veux absolument une position qui ne fonctionne pas. Après, si c'est pour avoir une idée que l'autre, c'est Hulk, et que mon partenaire, il me prend, il me soulève comme une plume, etc. Bon, ben, effectivement, là, c'est un petit peu... ça ne marche pas. Donc, il faut peut-être un marchepied. Il faut peut-être des appuis pour aider un tant soit peu.
Et puis, il n'a qu'à lui dire qu'il n'a pas envie, s'il n'a pas envie de le faire
comme
ça.
Mais avant ça, on en rit. Je ne veux pas céder à ses caprices. C'est-à-dire qu'il y aura d'un côté les caprices, ou de l'autre, moi, je n'ai pas envie, faisons le truc classique, ce qui va abîmer un peu tout. Non, dans la réalité, c'est qu'on essaie, on s'en amuse, puis après, on finit allongé par terre, parce qu'on n'a pas besoin d'un lit, en effet, on n'est pas obligé de rester dans la position verticale, ça peut se terminer complètement avachi sur le sol, au pied de ce mur où il devait se jouer de je ne sais quoi. Enfin, voilà, la sexualité doit rester un jeu, et ça n'est pas une dictature d'un sexe sur l'autre, pas plus du masculin sur le féminin, que maintenant du féminin sur le masculin.
Jimmy.
Parce que si, finalement, elle veut faire ça de temps en temps, dans le cadre d'un fantasme, on peut peut-être le comprendre, mais si c'est récurrent et systématique qu'elle refuse le lit conventionnel et qu'elle ne veut pas faire l'amour dans son lit, peut-être que là il y a un problème.
Oui, c'est là qu'on pose la question, est-ce que je ne veux pas justement faire ce qui ne fonctionne pas pour rendre à l'évidence d'une impossibilité de relation? Alors ça l'arrangera de penser qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne satisfait pas ses besoins, ses désirs, etc. Mais elle se sera arrangée bien évidemment pour choisir exactement ce qui est inopportun entre eux, parce qu'encore une fois, l'emboîtement des corps, ça oblige à prendre en compte la réalité des physiques de chacun. C'est-à-dire qu'un très grand avec une toute petite, vous imaginez bien, si elle est toute petite, il est très grand.
Il faut qu'il
fléchisse les jambes. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement très confortables. Deux personnes de la même taille, c'est pas encore... le volume des corps, or on ne va pas toujours épingler tout. On peut voir qu'il y a des choses qui sont opportunes entre un couple.
On en rit, on change.
On essaie, on se marre, ça marche, ça marche pas. On trouve que franchement, dans les films, ils se foutent de nous parce qu'ils nous font croire que tout marche très bien.
C'est pas faisable.
Parce que dans les films, effectivement, une femme, elle est plaquée contre un mur et ni une ni deux, non seulement il arrive à la pénétrer, mais la séquence suivante, elle est enceinte. Non, ça marche pas comme ça, c'est un peu plus compliqué. J'avais oublié qu'entre la première et la deuxième, entre-temps, bien sûr, elle a eu un orgasme. Donc, en fait, évidemment que tout ça, c'est de la fiction et on rêve de ces trucs un petit peu qui sont des ponts rapides que nous avons entre un moment et un autre. La réalité est tout à fait différente et ça n'est pas un drame, ça n'est pas ni un caprice auquel on se soumet, ni au contraire une autre dictature qui est « Allez, poupée, reviens dans ce lit ». Encore que s'il le dit comme ça, peut-être ça peut marcher.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous laisse en compagnie de Mathieu Noël et Stéphane Bern avec Historiquement Vôtre. Et moi, je vous dis juste tout simplement à demain.
Sans rendez-vous sur Europe 1.